place à la Convention et à la République. Le roi ayant été déchu de ses pouvoirs au soir de la journée des Tuileries, une nouvelle assemblée va être élue afin d'élaborer une constitution adaptée à la situation. Cette assemblée prend le nom de Convention nationale. Le temps des Girondins et des Montagnards. D'abord unis dans les clubs par le même souci de changement, ils se sont divisés parce que leur conception de la nouvelle société s'oppose totalement. Leur combat est une lutte à mort. Au soir du 10 août 1792, l'Assemblée législative estime sa mission achevée. Elle laisse la place à la Convention, c'est-à-dire à une assemblée qui dispose des deux pouvoirs, législatif et exécutif. Une assemblée identique à celle que Cromwell avait mise en place après l'exécution de Charles Ier en Angleterre en 1649. La Convention se réunit pour la première fois le 21 septembre 1792. Les élus girondins, jacobins de droite, occupent le tiers des sièges. Les modérés, appelés ironiquement le Marais, en occupent le quart. Le reste est réservé aux jacobins de gauche et aux montagnards, appelés ainsi parce qu'ils siègent sur les plus hauts degrés de l'Assemblée. Trois noms se détachent de la minorité jacobine de gauche et montagnarde, très active et jugée terroriste. Danton, Robespierre et Marat. Dans 2 ans à peine, tous les trois auront disparu tragiquement. Aux côtés de Danton, son secrétaire, Fabre d'Églantine, le poète qui composa cette chanson que Marie-Antoinette aimait tant. « il pleut, bergère ». L'auteur aussi du délirant discours qui justifie à la France entière les abominations des tout récents massacres de septembre. Dès son ouverture, le 21 septembre, la Convention abolit la royauté. Le lendemain, sur une proposition de Billaud-Varenne, elle décide de dater les actes de l'an 1 de la République. La République naît ainsi, sans grande cérémonie, le 22 septembre 1792. Elle est déclarée une et indivisible. Ce sera le premier article de la Constitution de l'an 1. Mais en réalité, au moment même de sa naissance, elle est profondément fissurée. D'un côté, la bourgeoisie possédante, fortunée, de l'autre, les classes populaires et les classes moins fortunées. Pendant un an, à partir du 22 septembre 1792, les mathématiciens Rome et Monge et le poète Fabre d'Églantine vont mettre au point le calendrier républicain. Il est destiné à mettre sur un pied d'égalité tous ceux qui l'utiliseront en supprimant toute référence à la religion. L'année commence à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. Le calendrier compte 12 mois de 30 jours, ce qui fait en tout 360 jours, et les 5 jours restants. Ce sont des jours de fête, appelés les sans-culottides. Tous les 4 ans, année bissextile, on ajoute un 6e jour, en 3, en 8, en 11. Adoptés par la Convention les 21 et 24 octobre 1793, il entre donc en vigueur l'an 2 de la République. Les jours portent des noms d'animaux domestiques, de plantes ou d'outils. Les mois sont regroupés par 3 et riment en fonction de la saison. En voici le détail. Le calendrier révolutionnaire va demeurer en vigueur jusqu'aux 10 Nivoses de l'an 14, c'est-à-dire le 31 décembre 1805. Les mois d'automne, terminaison en R. Vendémiaire, mois des vendanges, 22 septembre-21 octobre. Brumaire, mois des brumes, 22 octobre-20 novembre. Frimaire, mois des frimas, 21 novembre-20 décembre. Les mois d'hiver, terminaison en ose. Nivose, mois de la neige, 21 décembre 19 janvier. Pluviose, mois de la pluie, 20 janvier 18 février. Ventose, mois du vent, 19 février 20 mars. Les mois du printemps, terminaison en al. Germinal, mois des germinations, 21 mars 19 avril. Floréal, mois des fleurs, 20 avril 19 mai. Prairial, mois des prairies, 20 mai 18 juin. Les mois d'été, terminaison en Idor. Messidor, mois des moissons, 19 juin 18 juillet. Thermidor, mois de la chaleur, 19 juillet 17 août. Fructidor, mois des fruits, 18 août 16 septembre. Les 10 jours des décades. Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi. Les 6 jours supplémentaires de fin d'année, les Sansculottides, jour de la vertu, 17 septembre, jour du génie, 18 septembre, jour du travail, 19 septembre, jour de l'opinion, 20 septembre, jour des récompenses, 21 septembre, jour de la révolution, seulement les années bissextiles. Voici donc face à face deux factions, deux façons de penser. Les Girondins, plutôt originaires des grands ports, condamnent les massacres de septembre, même s'ils n'ont rien fait pour les arrêter. Ils représentent la bourgeoisie fortunée, possédante, industrielle et commerçante. Leur grand projet est de décentraliser le pouvoir. Ils l'ont ébauché en créant les 83 départements et ils voudraient que Paris ne représente qu'un 83e d'influence comme chacun des autres départements. Le commerce et les prix doivent être libres. Les montagnards représentent la bourgeoisie moyenne et les classes populaires. Cette bourgeoisie moyenne va se servir des sans-culottes comme d'une main armée. Les idées montagnardes sont exactement inverses. Paris est le centre de la France. Pour les députés de la montagne, la plupart élus parisiens, tout doit converger vers la capitale. Le gouvernement doit ajouter à la centralisation une autorité sans faille, y compris dans le commerce qui est rigoureusement surveillé et organisé. La révolution doit être sauvée par tous les moyens, même les plus impopulaires. Deux hommes dominent cette montagne. Danton, dit l'aboyeur ou le corrompu, et Robespierre, l'incorruptible, son Rousseau toujours en poche et en bouche. Sans tarder, les Girondins attaquent Danton. Ils l'accusent d'avoir détourné des fonds lorsqu'il était ministre. Ils attaquent Robespierre, il n'a cessé de tyranniser l'Assemblée. Ils attaquent Marat, il a excité les septembriseurs, les massacreurs de septembre. Halte là. Les montagnards sont là. En réponse à ces accusations, après la découverte le 20 novembre 1792 d'une armoire de fer contenant la correspondance de Louis XVI avec l'étranger, Robespierre va exiger que se tienne le procès du roi et demander sa mort. Le projet de Robespierre est voté par 707 voix sur 718. Le 11 décembre 1792, Louis XVI comparaît à la barre de la Convention pour la première fois. Les réponses qu'il fournit aux questions posées sont embarrassées. Il sait trop bien quelle sera l'issue de son procès. Le 25 décembre, il rédige son testament. Le lendemain, il comparaît pour la deuxième fois à la Convention. Son procès s'ouvre enfin. Les Girondins vont tenter de sauver le roi, quitte à renier leurs discours enflammés contre le pouvoir monarchique prononcé quelques mois auparavant. Mais le 4 janvier 1793, Bertrand Barrère, le président de la Convention, invite clairement les députés à prendre leurs responsabilités, sans tenir compte de l'indulgence contenue dans les arguments des Girondins. Quelle peine doit être prononcée contre le roi Louis XVI ? L'Assemblée passe au vote le 18 janvier. 361 députés se prononcent pour la peine de mort, dont Philippe d'Orléans, devenu dans le style sans culotte, Philippe Égalité. Philippe Égalité est le cousin du roi, le descendant du frère de Louis XIV, le père du futur Louis-Philippe. 360 députés votent contre la peine de mort.